Bonjour. Dans le cours précédent, nous avons examiné les débuts de l'histoire de l'îlot 1-5 de Pompéi. Et nous allons aujourd'hui terminer la présentation de son évolution et montrer comment fonctionnait la tannerie à la veille de l'éruption de 79 après Jésus-Christ. Je ne m'étendrai pas sur les procédés de tannage eux-mêmes, car j'ai demandé à Martine Le Guillou de les présenter dans un séminaire que nous ferons ensemble le 13 décembre en compagnie de Philippe Borgard, qui traitera du textile, et de Laetitia Cavassa, qui nous présentera la fabrication des poteries. Aujourd'hui, nous continuerons d'examiner des artisanats pour lesquels les fouilles que nous avons conduites entre 2000 et 2016 au titre du Centre Jean Bérard apportent des données nouvelles et surtout plus assurées que celles de nos prédécesseurs, qui d'une part n'avaient pas d'autre choix que de s'appuyer sur des approximations, voire des a priori mal étayés, et d'autre part ne disposaient ni des analyses biochimiques aujourd'hui disponibles, ni des résultats d'expérimentation. Nous nous intéresserons donc à l'artisanat de la tannerie avec les fouilles de l'îlot 1-5, à l'artisanat du textile, représenté par les laveries de toison de laine, les teintureries, les ateliers de fabrication de feutres et les fouleries, et nous examinerons le problème de la localisation et de l'identification des ateliers de filage et de tissage des pièces de tissu. Enfin, j'aborderai le travail des forgerons avec les travaux sur l'îlot 161 et sur le travail des plombiers. Ces études nous permettront ensuite de mieux apprécier la démarche et les résultats des collègues que j'ai invités donc pour le séminaire du 13 décembre. Alors commençons par la tannerie. Nous avons vu dans un cours précédent que l'histoire de l'îlot 1-5 pouvait être divisée en 5 états principaux. Un premier état caractérisé par un grand mur en papamonte, peut-être l'enceinte archaïque de Pompéi, et par une carrière de basalte exploitée au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Un second état qui vit la création des rues et la construction des premières maisons samnites, dont une comportant une salle à banquet, dans la première moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et nous en étions arrivés au 3e état de l'îlot, lorsque ces maisons samnites commencèrent à être profondément remaniées ou détruites pour laisser place à des habitations nouvelles. Cet état 3 regroupe donc la construction des maisons dans l'ensemble de l'îlot. D'une part, la maison 1-5-AB, qui est ici, qui est restructurée. D'autre part, la maison 1-5-C, dans l'angle nord-est de l'îlot, qui est édifié. À une époque que les données stratigraphiques ne permettent pas de préciser, les lots 1-5A et 1-5B ont été réunis pour créer une maison plus grande. La salle à banquet, construite au IIIe siècle, fut détruite et des pièces furent construites à sa place, dont un possible atrium dans la pièce 4. Toutefois, les travaux effectués dans cette pièce après le tremblement de terre de 62 ou 63, qui ont consisté à creuser une grande fosse, soit pour récupérer des blocs, soit pour extraire du sable, puis à remplir cette fosse de gravats, ne permettent pas de savoir s'il existait un impluvium à cet emplacement. Au sud de cette pièce, qui est ici, donc, se développait une grande cour bordée d'une rangée de pièces et d'un portique à piliers de calcaire. Vous voyez les pièces ici, le portique à piliers de calcaire, et qui donc le limitait sur le côté est. Un changement essentiel fut la rectification de la limite de propriété. La nouvelle maison 1-5-AB incluait l'ancien puits public et l'impasse ou la l'allée qui y conduisait. Cette annexion et la réfection de la maison 1-5-AB pourraient être à peu près contemporaines dans la seconde moitié du IIe siècle. Après un temps d'usage qui doit couvrir l'essentiel du IIe siècle, la citerne existant dans la cour fut détruite et comblée. Et l'abondant matériel trouvé dans le comblement montre que ces transformations intervinrent vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la partie nord-est de l'îlot, la parcelle C occupait donc l'angle. Elle mesure 9,60 m en façade, soit 35 pieds, et elle est occupée par une maison qui présente un plan à atrium. À l'extérieur, de part et d'autre de l'entrée, se trouvaient des banquettes en maçonnerie qui furent arasées lorsque la porte fut bouchée au moment de la reconstruction de la façade lors de l'état 5 après le tremblement de terre, ce que nous verrons tout à l'heure. Par cette entrée, on accédait à un atrium et les sondages que nous avons réalisés sous le sol de cette salle, qui sera la future salle des cuves de la tannerie, n'ont pas retrouvé d'impluvium. Il est donc possible qu'il s'agisse d'un atrium testudinatum, c'est-à-dire couvert. Toutefois, les profondes perturbations causées par la construction d'un pilier au centre de la pièce ont pu détruire toute trace de cet éventuel bassin. Sur l'atrium, ouvraient deux pièces, ici et là, dont le sol en opus signinum comporte des amphores qui ont été enterrées dans les angles, notamment la pièce 19 qui comportait des peintures dont on a retrouvé la plinthe rouge. Au sud de l'atrium se trouvaient d'autres pièces ultérieurement détruites. Vous voyez ici sur la maquette de la mosaïque de la maquette de Pompéi au musée archéologique national de Naples. Et donc, il se trouvait des pièces dont les peintures étaient conservées au moment de la découverte du site en 1873, mais qui ont aujourd'hui perdu dont on a perdu toute trace. Ouverte sur le mur méridional, une porte conduisait à un jardin bordé d'un côté d'un portique abritant une citerne et à des bassins de décantation pour l'eau. La céramique trouvée dans les remblais, sous les sols, montre que la construction de la maison 1-5C est postérieure au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ et comme les amphores scellées dans le sol pour récupérer les eaux de nettoyage sont de type gréco-italique récent, cette construction pourrait dater de la seconde moitié du IIe siècle, avant la diffusion massive des amphores Dresselin. Cette modeste maison semble avoir été habitée durant tout le 1er siècle avant Jésus-Christ sans grand changement, ou en tout cas, ils ne sont pas perceptibles ni dans les murs ni dans la stratigraphie. La partie sud de l'îlot, ce qui sera ensuite la zone 13 que nous verrons tout à l'heure. Cette partie sud resta libre de construction jusque dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Après le milieu du siècle, une maison 1-5-E fut construite dont nous avons pu trouver quelques lambeaux de sol en terre battue en bordure ici d'une carrière qui a beaucoup détruit de vestiges précédent, et nous verrons que cette carrière est importante pour notre propos. Au cours du dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, le mur de façade méridional de l'îlot fut reconstruit. 8 portes étroites furent créées, qui seront ultérieurement bouchées, et qui devaient donner accès à autant de pièces dont les murs ont été totalement détruits par la carrière ouverte à cet emplacement après le tremblement de terre. Si l'on restitue des cloisons accolées au mur sud, comme je l'ai fait ici, on obtient des pièces qui auraient mesuré 1,70 m de largeur interne. Il me paraît clair qu'il s'agit de cellules de prostitution ouvrant sur la rue des remparts et comportant un lit maçonné au fond de la pièce, comme dans le lupanar de la région 7. Ce lieu de prostitution a fonctionné à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle après Jésus-Christ, dans un environnement qu'on pourrait qualifier de favorable, car il était situé à proximité d'une porte, d'une grande rue commerçante qui était longée de tavernes et d'auberges. Le bouchage des portes est bien visible dans la stratigraphie en relation avec les niveaux de colluvion et il est datable de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Ceci nous amène à l'état 4 qui est caractérisé par un changement de nature dans une grande partie de l'îlot. Les maisons 1, 5C et 1, 5E furent alors transformés en tannerie de façon indépendante, alors que la maison 1, 5AB, ici, fut associée à la maison 1, 5C pour créer un ensemble artisanal déjà important. Dans une première sous-phase, que l'on pourrait appeler 4A, dans la maison 1, 5C, c'est-à-dire ici, dans la maison 1-5C, la pièce située au sud-est de l'atrium fut détruite en grande partie pour laisser place à trois cuves cylindriques de maçonnerie que l'on appelle en termes techniques des fosses de tannage. Comme il existe une pièce située au sud-ouest, on restitue une pièce symétrique qui aurait été détruite par l'installation artisanale. Il me paraît vraisemblable qu'une autre rangée de cuves faisait pendant à cet ensemble au nord de ce mur que l'on voit ici. Et toutefois, on n'en est pas certain car, comme vous le verrez, toute cette zone a été en grande partie détruite pour construire de nouvelles cuves dans une phase postérieure. Cette phase 4A n'est pas daté autrement que relativement entre la construction de la maison elle-même et le tremblement de terre. On tiendra pour vraisemblable que la conversion de la maison 1-5C en tannerie a eu lieu dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, car une seconde phase 4B, que nous allons voir, vit la construction d'une nouvelle série de quatre cuves cylindriques de tannage dans la partie est de la pièce, ici. Et cette extension de la tannerie existait déjà au moment du tremblement de terre. En même temps que la nouvelle série de cuves, que nous voyons donc ici, fut créée dans la partie ouest de l'ancien atrium transformé en atelier, fut créé un atelier de broyage des écorces pour obtenir le tan, c'est-à-dire la poudre dont les tanins migrent dans les pots pour les transformer en cuir. Sous le pavement de béton de tuileaux de l'état 5, que nous verrons tout à l'heure, nous avons en effet découvert l'empreinte d'un mortier en basalte qui fut déplacé, comme nous le verrons, après le tremblement de terre dans une pièce voisine. Parallèlement, la maison 1-5-AB, ici, fut reliée à la maison 1-5-C par une porte, qui se situe ici, et un escalier. Et on construisit une noria pour élever l'eau du puits, ceci quelque temps après le règne d'Auguste. La tannerie nécessite en effet de gros besoins en eau pour les opérations de nettoyage des pots, ce que l'on appelle le travail de rivière. Les étapes du processus de tannage ne peuvent pas être restituées aussi bien que pour la dernière phase avant l'éruption. Toutefois, nous pensons que le travail de rivière devait se dérouler déjà sous le portique de la cour, c'est-à-dire ici, dans les pièces existant auparavant, et que ces pièces étaient alimentées en eau par la noria. Cette noria nécessita l'ovalisation de l'ouverture du puits, vous voyez ici, pour laisser place à la chaîne à godets et la construction d'un bâti en bois sur un socle profondément fondé, que l'on voit ici à côté, nous a permis donc de mieux préciser sa datation. Ce bâti en bois supportait l'axe de la roue d'écureuil où des hommes marchaient entraînant la chaîne à godets remplie d'eau et élevant donc l'eau jusqu'à des bassins qui ensuite redistribuaient l'eau dans les ateliers. Cette installation implique que le tanneur qui occupait cet ensemble avait dû déjà acheter les maisons 1-5A et 1-5B ici et les associer avec la maison 1-5C. Dans la partie sud de l'îlot, là où existait la maison 1-5E, qui semble alors indépendante, les cellules de prostitution situées en façade furent détruites, comme nous l'avons vu, et les portes furent bouchées. Un four de potier préexistant, qui est probablement contemporain de l'utilisation des cellules de prostitution, et qui produisait des céramiques communes, notamment des pots de cuisson, que vous voyez là, fut alors détruit et remplacé par des cuves de tannage, que vous voyez ici. Cette tannerie comportait au moins deux cuves cylindriques bétonnées, d'un diamètre de 1,30 m. Ces cuves sont enduites intérieurement de mortier de silo et montrent des logements dans leurs parois permettant aux ouvriers de descendre et de monter lors des opérations de mise en place des pots et d'évacuation du temps. L'analyse de leurs parois par le laboratoire Nicolas Garnier a montré que l'une des cuves conservait encore des molécules de chêne qui prouvent que l'on tannait à base d'écorce de ce bois. Ces cuves ont été réparées une fois. Leur fond, qui devait fuir, a été rehaussé par une couche de mortier de tuileau, ce qui indique donc un certain temps d'usage. À côté des cuves, il existait au moins un dolium enterré jusqu'à l'épaule, qui, étant donné son emplacement, devait plutôt servir au tannage de petites peaux, comme celle de mouton, éventuellement avec un procédé à la lin, plutôt qu'au trempage et au rinçage des peaux. En effet, les manipulations du travail de rivière demandent de l'espace, or la zone où se trouve le dolium n'en offre guère. Cette installation a été en grande partie détruite par une carrière ouverte après le tremblement de terre. Vous voyez ici l'angle de la carrière. Et cette carrière donc a détruit un certain nombre d'autres cuves, et j'imagine que cette tannerie était probablement beaucoup plus vaste que ce qui en a été préservé, et évidemment elle devait disposer d'ateliers de travail qui ont été totalement détruits par la carrière. Ceci nous amène donc à l'état 5, qui est l'état final de l'occupation de la tannerie et qui recoupe donc toutes les constructions postérieures au tremblement de terre, dont les dégâts dans cet îlot furent considérables. J'ai divisé cet état 5 en deux sous-phases, l'état 5A et l'état 5B. Au cours de l'état 5A, la façade occidentale, l'angle nord-est de l'îlot et la façade orientale, c'est-à-dire tout ce secteur qui est ici, qui avait été en grande partie détruit, furent reconstruites, ainsi que les maisons au sud et à l'est de l'îlot. Les travaux qui suivirent le tremblement de terre manifestèrent d'une part une continuité de l'activité artisanale, et d'autre part, une restructuration des propriétés. Il est probable, en effet, que l'état de ruine de l'îlot incita les propriétaires des maisons qui étaient au sud à les vendre à l'un des deux tanneurs installés intérieurement. Ce dernier devait disposer de moyens financiers et avait un sens de l'opportunité en affaires, car il a bâti les maisons probablement les plus abîmées dans ce secteur et ouvrit une carrière destinée à extraire des blocs de lave qu'il devait vendre aisément en profitant des besoins créés par la reconstruction de la ville. Le creusement de la carrière, nous l'avons vu, a entraîné la destruction partielle des cuves de la tannerie méridionale et évidemment son abandon. En revanche, le tanneur reconstruisit la partie nord de l'îlot. D'une part, il créa une petite maison à étage, au moins un étage, dans la partie nord-ouest de l'îlot, qui avait été préservée par la massivité des murs anciens en opus quadratum. On peut penser que cette maison fut louée, puisqu'elle ne communique pas avec le reste de l'îlot. D'autre part, il aménagea les anciennes maisons 1-5A et 1-5C en une grande tannerie, créant une espèce de manufacture modèle assez bien organisée. Les travaux de restructuration utilisèrent surtout des blocs et des moellons de récupération provenant des murs écroulés. La façade nord, nous l'avons vu, fut abattue, sauf les parties en grand appareil et en moyen appareil qui avaient résisté. Les murs furent reconstruits, vous en voyez ici un exemple, en opus incertum de calcaire, et les angles furent bâtis en opus mixtum de tuiles et de moellons de tuf jaune. Outre la réfection d'une part notable des murs de façade, les travaux portèrent sur la construction d'installations de tannage modèle que nous allons voir. Alors voici ici la façade nord, presque totalement reconstruite, avec la nouvelle entrée qui est créée ici, et la façade est, elle aussi, en grande partie reconstruite. Donc, il crée un ensemble qui est relativement rationnel pour le traitement des pots. Il commence par ouvrir une entrée au milieu de la façade nord de l'îlot, entrée dont le seuil à rainure indique clairement que la pièce qui servait d'entrée était une boutique où devaient s'effectuer les transactions commerciales, ce que un graffito lu sur les murs en 1873 semble confirmer. De la boutique, on passait à la pièce centrale, c'est-à-dire la boutique est ici, on passait à la pièce centrale et de là, dans la grande cour où se faisait l'essentiel des travaux. Dans cette cour, un nouveau portique à piliers, en opus mixtum, remplaça l'ancien portique qui était doté de piliers de calcaire. Et l'on construisit des cloisons délimitant 5 compartiments qui étaient utilisés comme ateliers. Contre la façade ouest, nouvellement reconstruite, un triclinium d'été, un triclinium à estivum, fut aménagé. Cette salle à manger à l'air libre comportait 3 lits, vous voyez ici, et une table au milieu, l'ensemble étant abrité par une treille dont nous avons pu retrouver et mouler à la fois le pied de vigne qui était bien conservé et les poteaux qui supportaient la treille. Dans l'angle nord-est de la cour, une porte donnait accès à la pièce 14 ici et par cette pièce, par un escalier aux pièces 16 et 19. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'atelier de broyage des écorces pour obtenir le ton fut transféré de la pièce 16 à la pièce 19 et l'on scella le mortier de basalte dans une banquette de maçonnerie que vous voyez ici. Dans la pièce 16, les capacités de traitement des pots furent notablement augmentées par la construction de 8 nouvelles cuves cylindriques que l'on voit ici, ce qui porta leur total à 15. Dans ce vaste espace de 10 mètres par 9, soit 90 mètres carrés, on construisit un pilier central en opus mixtum qui supportait la toiture couvrant les trois quarts de la pièce. Nous connaissons par chance le maçon qui construisit le pilier, car il a gravé son nom sur les moellons de tuf avant de les recouvrir d'enduit de mortier de tuilo. Il a écrit « Marcus Monimus Fecit », ce qui témoigne de sa fierté et de la qualité de son travail. Le quart nord-est de la pièce, c'est-à-dire ici, fut laissé libre et servit donc d'impluvium pour récupérer et évacuer les eaux de pluie. Au total, les quatre postes de travail où l'on traitait les pots pour en faire du cuir ont été localisés. Le travail de rivière, le trempage dans les bains de thon, le séchage des pots et le corroyage. Le travail de rivière était réalisé sur des chevalets de bois inclinés où les pots étaient posés. Les ouvriers les raclaient avec des couteaux concaves à deux manches. Deux de ces outils ont été trouvés lors des dégagements de 1873 et une étire, c'est le nom de cet outil, qui était taillé dans une côte de bœuf, a été découverte par nous-mêmes dans le dépotoir des tanneurs comblant la carrière. Cette phase de préparation des pots réclame, nous l'avons vu, beaucoup d'eau pour alimenter les trois jarres qui furent placées à l'extrémité des murs délimitant les compartiments. Vous voyez ici une jarre et le canal qui amène l'eau dans cette grande jarre qu'on appelle un dolium. Les compartiments centraux étaient quant à lui dotés d'un banc de pierre qui servait aux opérations de l'ultime phase de préparation des cuirs. Mais les autres abritaient les ouvriers qui écharnaient les pots sur des chevalets. Dans les compartiments 54 et 55, des tuiles plates qu'on voit ici, scellées dans le sol, indiquent les emplacements où se tenaient les ouvriers. Lorsque les pots étaient prêtes, on les transportait dans les 15 cuves de la salle 16. Les 8 nouvelles fosses, plus grandes que celles de la première série de 3, mais analogues à celles de la seconde série de 4 cuves, présentent deux particularités. Elles forment des groupes de 4, séparés par des fosses rectangulaires, et elles comportent, de part et d'autre, deux amphores Dresselvin décolletées et scellées dans la maçonnerie. La fosse rectangulaire, qui a beaucoup intrigué nos prédécesseurs, doit être interprétée comme ce que l'on appelle une fosse à tanner. À tanner, non pas TA2NER, mais TA2NEE, car la tannée est l'un des résidus du processus de tannage. C'est la poudre d'écorce épuisée par plusieurs cycles de tannage. La certitude concernant l'identification de cette installation nous est venue lorsque nous avons fouillé les orifices cylindriques qui sont situés de part et d'autre de ces sorte de cuve, et qui était encore remplie de lapilli. Nous avons pu déterminer que ces trous n'étaient pas, comme on pouvait le penser, des trous d'évacuation de l'eau, mais des trous de scellement de poteaux en bois verticaux. Ces poteaux devaient faire partie d'un chevalet auquel les ouvriers se tenaient pour ne pas glisser lorsqu'ils piétinaient la tannée pour en extraire l'eau. Vous voyez ici une représentation d'une gravure tirée de l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot qui montre comment se faisait le travail dans ces bassins rectangulaires qui flanquaient les fosses de tannage. Vous voyez ici des fosses cylindriques de tannage, donc du XVIIIe siècle, et ici la fosse à tannée où travaille un ouvrier qui piétine la tannée de façon à créer des espèces de briquettes que l'on mettait à sécher et que l'on utilisait soit comme combustible, soit comme engrais. Restait à déterminer l'utilisation des amphores espagnoles Dresselvin décolletées et scellées entre les cuves cylindriques. On avait pensé depuis longtemps qu'elles servaient au tannage de petites peaux. En fait, elles devaient être utilisées pour des procédés de tannage particuliers et notamment le tannage à l'alun des peaux d'agneaux et de chevreaux, ce que l'on appelle la mégisserie. En effet, la préparation des cuirs fins et souples destinés à réaliser des sous-vêtements, des bourses ou des objets de luxe utilisait des bains additionnés d'alun. La découverte parmi les déchets de tanneur jetés dans la carrière de nombreuses amphores fabriquées à Liparis, dont Philippe Borgard a démontré qu'elles servaient au transport de l'alun, indique qu'on utilisait ce produit chimique pour les procédés de tannage, probablement à la fois pour la mégisserie qui se faisait dans ces petits conteneurs et aussi pour l'assouplissement des cuirs obtenus par des bains de cuir de temps végétal. L'essentiel de la production, en fait, était réalisé malgré tout par tannage végétal qui nécessite, nous l'avons vu, le broyage de l'écorce des arbres et des noix de galle. Ici, une vue des ossements que nous avons trouvés dans le dépotoir des tanneurs et l'on voit qu'on tannait beaucoup de petites peaux, notamment des peaux de moutons et de chevreaux, etc. Et on tannait aussi, nous allons le voir, des peaux de bœuf. Pour tanner donc ces peaux de bœuf, il fallait utiliser, comme nous l'avons vu, de l'écorce d'arbres ou des noix de galle, qui sont des excroissances pathogènes qui se forment sur les chênes. Cette opération était réalisée dans le grand mortier en basalte déjà évoqué. Et je pense que les particularités de la banquette en maçonnerie que nous avons trouvée, et notamment la présence ici d'un trou de fort poteau qui semble lié au mortier lui-même, nous impose de restituer une structure en bois qui devrait être un pilon à balancier, c'est-à-dire un poteau vertical supportant une potence à laquelle était fixé un fléau équilibrant le poids du pilon par un contrepoids probablement de pierre. Ainsi, le fastidieux travail de pilonnage était facilité et la production considérablement augmentée. Quels étaient les peaux tannées ? Nous savons, grâce à l'étude des ossements réalisés par Martine Le Guillou, qu'on tannait donc des peaux de moutons et de chèvres et aussi des peaux de bœuf. De nombreux os de pattes d'ovins-caprins et des cornes de bœuf attachées à des portions de crâne ont été en effet trouvés dans le dépotoir des tanneurs. Les fortes proportions de ces restes osseux sont dues au fait que les poux arrivaient dans la tannerie avec les ossements, les parties osseuses encore attachées. Les pattes et les cornes, comme ce sera encore le cas à la Renaissance et même au début du XXe siècle, comme on le voit sur cette photo. Le processus de tannage lui-même prenait plusieurs mois, au cours desquels l'osmose entre le temps et le collagène transforme la peau putrescible en cuir résistant à la décomposition. Lorsque le cuir était prêt, on retirait les peaux des fosses de tannage et on les mettait à sécher. On a longtemps supposé que le séchage des peaux était réalisé dans la partie sud de l'îlot, mais nous savons désormais, par nos fouilles, que cette zone était en fait une énorme fosse impraticable, laissée par la carrière. Je pense donc que le séchage des peaux avait lieu au premier étage du bâtiment, comme on le voit dans beaucoup de tanneries traditionnelles. Et je propose d'interpréter la construction d'un escalier dans cette grande pièce qui est ici, construction d'un escalier qui est postérieur au tremblement de terre, comme étant l'escalier qui donnait accès à une terrasse au-dessus de ce portique, terrasse où devait être donc installé des systèmes pour mettre les pots à sécher et une terrasse qui devait être partiellement fermée par des planches disposées de telle sorte à créer des courants d'air. Cet atelier, cet escalier d'ailleurs n'était pas le seul, il y en a un autre ici qui permet donc de restituer un étage où à la fois on devait mettre les pots à sécher et où devaient habiter les ouvriers de la tannerie. La dernière étape du processus de tannage, le corroyage, regroupe les opérations de finissage du cuir brut par battage et graissage afin de le rendre propre à la vente. Ces opérations avaient lieu dans l'atelier central du portique de donne sur la cour, sur un banc de pierre où l'on posait les peaux pour les retailler, les étirer, les battre et les nourrir à la graisse. L'établi de pierre de Pompéi que nous voyons ici est tout à fait similaire à celui décrit et dessiné dans la gravure de l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot. Sur ce point technique, rien n'avait donc changé entre le 1er siècle et le 18e siècle. Les cuirs finis étaient ensuite transportés dans la boutique pour être vendus et ces opérations peut-être que fait allusion un conte écrit au charbon de bois sur l'enduit de la boutique mais qui aujourd'hui a totalement disparu. Voilà donc comment ça fonctionnait dans les années précédant l'éruption. Mais nous avons vu principalement ce qui se passe dans la phase 5A. Il faut maintenant voir ce qui se produit lors des toutes dernières années ou peut-être des tout derniers mois avant l'éruption de 79. C'est ce que j'ai appelé l'état 5B qui regroupe donc les tout derniers aménagements. Entre l'intervalle représenté par le tremblement de terre et l'éruption, la carrière, qui avait fonctionné pendant un certain temps, fut abandonnée et fut utilisée comme décharge. Pour nous, ça a été une grande chance, car elle est comblée, certes, en partie de gravats, mais surtout de déchets provenant de la tannerie. Nous avons vu des ossements de pattes de mouton, les cornes de bœuf, les fragments d'amphores ayant contenu le lin, vous avez ici un exemple, mais aussi des amphores à vin. Dans la cour. Le triclinium aestivum qui avait été construit immédiatement après le tremblement de terre fut réaménagé dans les dernières années ou les derniers mois avant l'éruption. Dans sa phase première, le triclinium comportait une table ronde qui fut, dans un deuxième temps, ennoyée dans une table rectangulaire destiné à supporter une mosaïque représentant un crâne. La mosaïque est plus ancienne. Elle date du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une pièce d'antiquaire que le tanneur a achetée probablement lors de la démolition d'une autre maison. Il devait en effet exister un marché de la récupération des matériaux et plus encore des œuvres d'art. Nous en avons beaucoup d'attestations littéraires. Cette mosaïque est remarquable par ce qu'elle représente, et son choix est certainement porteur de signification. Dès après la découverte, en 1873, cette mosaïque qui représente donc un crâne, la roue de la fortune et les symboles de l'égalité entre les riches et les pauvres, a suscité plusieurs articles publiés par Soriano, Mao et Fiorelli dans les années 1874-1875, et elle a fait ensuite l'objet de plusieurs études, notamment de Brendel et en dernier lieu d'un article assez développé qui s'appelle « Observations on the Allegory of the Pompeian Death Head Mosaic » paru dans « The Visible Idea, Interpretation of Classical Arts » à Washington en 1980. La mosaïque a été immédiatement transportée au musée de Naples et elle est reproduite partout, mais on oublie trop souvent que son contexte de découverte est la tannerie et que ce contexte nous informe sur la mentalité du propriétaire. Le thème de la mort qui égalise les conditions sociales était courant dans la philosophie populaire. En effet, que montre cette mosaïque ? Donc, au centre, nous avons le crâne, qui est le symbole évident de la mort. Il est placé sur un papillon que toute l'iconographie antique nous indique comme étant le symbole de l'âme qui s'échappe du corps lorsque la mort sépare l'âme du cadavre, selon Héraclite et les successeurs. En dessous, nous trouvons la roue, qui est le symbole de la fortune qui tourne et qui nous donne tour à tour des joies et des peines. Au-dessus du crâne, on trouve un niveau de maçon servant à déterminer la verticalité et dont des deux côtés, on voit pendre deux ensembles de vêtements et de symboles. D'un côté, on voit un bâton de berger, un pedum, et une besace et un vêtement effrangé. Et ce sont évidemment les attributs des gens qui ne possèdent rien, et qui sont des cheminots et qui n'ont besoin de rien, c'est-à-dire les mendiants et les philosophes errants. De l'autre côté, on voit un diadème, un vêtement de pourpre et un sceptre qui sont évidemment les symboles du pouvoir. Le rébus est donc clair, la mort équilibre les conditions sociales. La royauté et la richesse ne valent pas plus que la misère, ce que Horace, exprimé par le vers de l'Ode 1.4.13, « Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regum que tures », qu'on pourrait traduire de la façon suivante, « La pâle mort heurte d'un pied égal les boutiques des pauvres et les châteaux des rois. » Et comme vous le savez, Horace poursuit ensuite sur la brièveté du cours de la vie, etc. Alors pourquoi le propriétaire des lieux a-t-il choisi précisément ce thème pour la mosaïque qu'il a fait installer dans sa salle à manger en face des ateliers? Car nous avons la preuve archéologique que ce triclinium a été construit lors de l'implantation de la grande tannerie, puisque nous avons vu d'une part que le triclinium s'appuie sur un mur qui est reconstruit depuis les fondations après le tremblement de terre, et d'autre part que les remblais sous les lits de béton contenaient des céramiques de l'époque de Néron et aussi une structure d'ossements qui indique que les lits ont été remblayés alors que la tannerie fonctionnait déjà, et nous savons qu'avant le tremblement de terre, il y avait déjà donc du tannage dans cet îlot. Il faut donc imaginer qu'en toute connaissance de cause, le tanneur invitait ses amis dans ses ateliers où devait régner une certaine puanteur pour donner des banquets devant ses ouvriers travaillant sous le portique, où nous avons vu qu'en effet les ouvriers raclaient les pots. Il manifestait ainsi son succès, une attitude courante dans la plèbe moyenne qui était fière de sa réussite par le travail et de la richesse acquise, et donc un peu à l'opposé de la mentalité aristocratique qui opposait l'otium et le négocium. On comprend dans ces conditions que le tanneur ait choisi de rappeler à ses invités des compagnons de beuverie appartenant à sa classe sociale, celle des petits entrepreneurs, des artisans, parmi lesquels de nombreux affranchis. Il leur rappelait donc que la vie est brève, que la mort égalise tout, que la prospérité présente ne durera pas et qu'il faut jouir du temps qui passe. Cette philosophie hédoniste était largement partagée à l'époque. On se souvient que dans le roman de Pétrone, le Satyricon, au paragraphe 34, l'affranchi Trimalchion fait montrer à ses convives un squelette d'argent, si bien ajusté, nous dit Pétrone, que ses articulations et ses vertèbres se mouvaient avec souplesse dans tous les sens. Et il rappelait ainsi que les chétifs humains vont retourner au néant, et Trimalchion invitait donc ses compagnons à profiter de la vie. Le même thème est repris dans la décoration de gobelets en argent, des trésors de Boscoréal et de la maison de Ménandre, que nous voyons ici, où sont représentés des squelettes dont la vue était supposée inciter à jouir de l'instant présent. Ainsi, le choix de ce thème et du lieu de présentation en face d'un espace de travail révèle la mentalité des propriétaires et son appartenance sociale. Nous avons affaire à un véritable entrepreneur qui voyait grand, mais qui restait conscient de la brièveté de la vie, et l'éruption du Vésuve, quelques années ou quelques mois après la pose de la mosaïque, lui a évidemment donné raison. Donc, résumons donc ce cas exceptionnel. Cette tannerie naquit de la volonté d'un homme qui entreprit d'acheter la totalité d'un îlot pour étendre ses activités, si l'on suppose qu'il s'agit l'un des deux tanneurs en activité juste avant le tremblement de terre. Cet homme tira le meilleur parti des bâtiments existants. Dans les parties très ruinées, il ouvrit des carrières de basalte et de sable, et ailleurs, il conserva les murs encore debout, mais profitant de la destruction pour rationaliser au mieux le parcours des pots. Celle-ci faisait un aller-retour dans les ateliers autour du point central qui est le puits. Dans la dernière phase, brève, au maximum une quinzaine d'années, nous avons vu que la tannerie occupait pratiquement tout l'îlot. Une tradition des études pompéiennes qui remonte à Giuseppe Fiorelli attribue cette propriété à un certain Marcus Vesonius, dont le nom était inscrit sur la façade à côté de l'entrée, connue en 1-5-2. L'inscription, aujourd'hui perdue, est rapportée par le CIL 4 au numéro 4012 sous la forme M. Vesoni Vos. Marcus Vesonius serait le nom d'un rogator, propriétaire de l'établissement, qui aurait utilisé sa façade pour se déclarer en faveur d'un candidat aux élections. Selon Matteo Della Corte, il ne serait autre que Vesonius Primus, un foulon qui, sur la façade de la Foulonica située en 6-14-21-22, prit parti pour Marcus Gavius Rufus, pour Cneius Elvius Sabinus et pour Lucius Seius Segundus lors des dernières élections avant l'éruption. Cette double propriété d'établissement économique connexe aurait indiqué, selon Walter Müller, dans son livre dont nous reparlerons tout à l'heure, The World Trade of Ancient Pompeii, paru en 1976, une sorte de concentration verticale de la filière de laine et du cuir. Et je le cite, « We have one known case of an important operator who was engaged in an associated industry, Marcus Vesonius Primus, the owner of the large foray in 6-14-21, also ran the only tannery found at Pompeii. His name was found on an election notice at the left of the entrance. As a byproduct of tanning, he must have had a considerable amount of wool pulled from the hides. » Cette belle reconstruction ne résiste pas à la critique. Remarquons d'abord qu'il ne saurait y avoir de concentration verticale en la matière, car la laine n'est pas un sous-produit du cuir, tout au plus une diversification des investissements dans des filières connexes qui mettent en relation des acteurs économiques communs. Mais surtout, William Youngman, dans son livre « The Economy and Society of Pompeii », 1988, page 174, a montré que la relation entre l'individu mentionné sur l'inscription électorale et le foulon était erronée. Rien ne permet de dire que Marcus Vesonius est assimilable à Vesonius Primus. En fait, Youngman a montré que ce sont deux personnages différents, car Vesonius Primus, bien que foulon ayant pignon sur rue, n'était pas considéré comme un personnage de premier plan. Dans la tablette 31 des archives de Caecilius Jucundus, le banquier de Pompéi, il signe en cinquième place, ce qui exclut qu'il ait été magistrat de la cité. De plus, le nom fait partie d'un manifeste électoral que l'on peut restituer en Marcum Vesonium Oro Vos Faciatis, nommant donc le candidat et non la personne qui appelle à voter pour lui. Cela élimine donc toute relation entre l'établissement et le nom. La tannerie perd donc le nom de son propriétaire. Elle était seulement pourvue d'une inscription appelant banalement à voter pour Marcus Vesonius, probablement Marcellus, qui était candidat au duumvirat. Le propriétaire de la tannerie, anonyme, devait donc être toutefois un entrepreneur aisé, comme l'indique l'ampleur de la réalisation. J'ai déjà souligné qu'il avait fait installer 15 grandes cuves d'un diamètre moyen de 1,50 m et d'une profondeur d'1,60 m, ce qui porte les capacités de traitement des pots à 42 mètres cubes. De tels volumes n'ont été atteints qu'à l'époque moderne. La tannerie modèle de l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, dont nous voyons ici une partie du plan, comporte 12 fosses de tannage équivalentes. La plupart des 24 tanneries connues à Anian en Languedoc en 1859 étaient de taille équivalente à celle de Pompéi. La tannerie d'Antoine Jouyet, par exemple, comptait 8 cuves cylindriques et 12 parallélépipédiques. On se trouve donc ici dans un établissement se situant à une échelle proto-industrielle. Mais évidemment, estimer la production dépend du nombre de tanneries présentes dans la ville. En 1745, à Anian, on comptait 29 tanneries, additionnant 51 fosses de tannage. À Pompéi, la présence de plusieurs installations, si elles étaient contemporaines, serait l'indice d'une production en partie tournée vers la vente hors du territoire de la cité. Or, nous ne connaissons jusqu'à présent qu'une seule tannerie encore en fonction en 79. En effet, la tannerie mise au jour en 2007 par l'équipe de Stephen Ellis et de Gary DeVore, une équipe américaine de l'Université de Cincinnati, n'est pas contemporaine de la fin de la ville. Cette tannerie est située de l'autre côté de la Via Stabiana. La porte de Stabiae est ici, notre tannerie est ici, et nous sommes donc à quelques mètres de l'autre côté de la voie. Dans une maison que l'on appelle de la région 8, que l'on appelle 7-9-11. Cette maison a connu trois phases principales. Vous voyez ici, c'est une maison tout en longueur qui ouvre sur la Via de Stabiae et la tannerie est dans la partie occidentale de la maison. La maison donc a connu trois phases principales. Une première qui est mal conservée, qui remonterait au IIIe siècle ou au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Puis, nous aurions une seconde phase correspondant à la mise en place des structures de la maison, donc cette maison très allongée, qui serait datée de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la maison serait principalement un atelier qui comprendrait d'une part des cuves de salaison dans la boutique ouvrant sur la rue et une tannerie donc au fond. Dans la boutique, deux séries de cuves rectangulaires se sont succédées à la fin du IIe siècle ou au début du Ier siècle. Et dans la pièce 56, quatre cuves cylindriques de tannage de 1 mètre de diamètre, de 1,40 m de profondeur, sont disposées de façon aménagée au centre, comme dans ce que nous avons vu dans l'îlot 1.5, un bassin pour la tannée, c'est-à-dire le résidu du tannage. Au sud-est de la pièce, une cuve battue en pierre, sans enduit, était connectée à un égout passant dans la pièce voisine, et cette cuve devait servir à rejeter les eaux usées par les bains dans lesquels on mettait les pots pour les transformer en cuir. La pièce voisine, qui est située ici, était à la fois une pièce de travail, on y a trouvé une plateforme basse en mortier, c'est là qu'on aurait traité les pots, et elle comportait aussi un escalier permettant de monter à l'étage. Selon les fouilleurs, lors de la troisième phase, sous le règne d'Auguste, les cuves de la tannerie et de la boutique furent comblées et la maison radicalement transformée. La boutique devint alors une entrée. Une salle à manger fut construite à l'emplacement des cuves de la tannerie, qui donc ont été bouchées et recouvertes d'un mortier de tuileaux. Et une cuisine fut installée dans la pièce voisine. Les effets du tremblement de terre de 62 ou 63 n'auraient pas laissé de traces dans la stratigraphie, mais seulement dans la réfection des murs. Je doute d'une telle reconstruction pour deux raisons. D'une part, le plan et le mode de construction des cuves de la tannerie sont absolument identiques à ceux de la tannerie 1-5-2, dont on peut dater la construction de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Que des procédés de construction aussi spécifiques aient pu rester inchangés durant plus d'un siècle me paraît improbable. D'autre part, alors que l'on constate partout alentour des mutations importantes produites par le tremblement de terre de 62 ou 63, et alors même que plusieurs murs de la maison ont été reconstruits presque entièrement à cette date, aucun changement ne serait advenu dans le traitement des sols, ce qui serait inédit à ma connaissance. En fait, la datation de la cessation d'activité à l'époque d'Auguste repose sur le matériel trouvé dans le comblement des cuves, composé, je cite, de « a massive dump of building debris sealed with an opus signum floor ». Or, ce remplissage rappelle les comblements analogues faits de débris qui ont servi à niveler les sols après le tremblement de terre et à permettre des changements d'activité. Le fait de trouver de la céramique du 1er siècle avant Jésus-Christ et du règne d'Auguste est parfaitement normal dans ce contexte. En effet, ce type de remblaiement produit par donc des gravats qui sont jetés est caractérisé par une forte résidualité du matériel archéologique, c'est-à-dire que le comblement réalisé après le milieu du 1er siècle de notre ère contient une forte proportion, parfois exclusive, de tessons de vases plus anciens, parfois d'un bon demi-siècle, voire plus. J'ai personnellement observé ce phénomène dans le comblement des cuves de la parfumerie située dans la région 7, insula 4, numéro 24, qui, je le rappelle, était scellée par un sol daté par un dépôt de monnaie de 65 après Jésus-Christ. L'une des cuves n'a livré que du mobilier du 1er siècle avant Jésus-Christ, et la seconde presque exclusivement du matériel de cette époque, à l'exception d'un vase complet trouvé éclaté au fond de la cuve et qui date de l'époque de Néron. À Herculanum, Nicolas Montex a aussi constaté que dans la boutique de la région 6, insula 15, située en façade de la Casa del Salonero, le comblement de la cuve aurait certainement été interprété comme augustéen à cause du matériel présent si, dans une couche stratigraphiquement antérieure au remplissage de la cuve, il n'avait trouvé des fragments d'amphores de Bétique Beltrán 2B dont la diffusion ne peut guère être antérieure à Tibère. Il en conclut donc logiquement que le remplissage de la cuve est attribuable aux réparations des dégâts du séisme de 62-63. Et c'est une vue que je partage totalement. Je vous renvoie à son article qui s'appelle « Fouille de l'atelier de métallurgie du plomb et de la boutique 615 en façade de la Casa del Salonero à Herculanum » paru dans la Rivista di Studi Pompeiani 2005. J'estime donc qu'il faut attribuer le comblement des cuves de la tannerie 877 aux travaux post-sismiques, en même temps que les murs sont reconstruits et donc en même temps que le changement de destination de l'habitation qui deviendrait dès lors un restaurant, selon Stephen Ellis. D'ailleurs, dans le rapport qu'ils ont publié dans Fasti Online, sous le numéro 284, Eric Peller et Stephen Ellis, dans le numéro de 2013 de leur rapport qui s'appelle « The Pompeii Catrypocticus Project, the Eastern Side and the Colonnade », ces deux auteurs indiquent bien que la reconstruction de l'aile orientale du portique du théâtre est postérieure au tremblement de terre. Or, la fondation du mur repose, c'est ce mur qui est ici, on voit bien que la fondation repose sur le sol et les cuves. Il y a donc une certaine cohérence à dater l'abandon de la tannerie des lendemains du séisme. Ceci posé, la datation de la construction de la tannerie 877, cette datation elle-même, pourrait être sensiblement postérieure à la date avancée par les auteurs, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Encore une fois, l'expérience acquise lors de la fouille de l'îlot 1-5 montre que les travaux de creusement de l'excavation qui contient les cuves détruit en général tous les sédiments antérieurs. Ce qui revient à dire que l'archéologue n'a pas de données chronologiques pour dater leur mise en place. On sait seulement que les cuves sont appuyées contre le mur est du quadriportique du théâtre, daté à partir du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais cet ajout peut être nettement postérieur. Au total, je crois que rien n'empêche une datation au 1er siècle de notre ère et un fonctionnement qui n'excéderait pas une cinquantaine d'années. Si cette hypothèse est juste, on aurait, à partir de l'époque augustéenne, et disons dans la première moitié du 1er siècle, au moins trois tanneries relativement importantes groupées dans la partie basse de la ville. Bien qu'on connaisse très mal les tanneries dans le monde romain, car elles devaient surtout se trouver en périphérie des villes, il existait ailleurs de tels regroupements causés par la gestion de l'eau, à la fois l'eau nécessaire au processus de traitement des pots et les eaux usées qu'il fallait pouvoir évacuer. C'est le cas, par exemple, à Athènes, le long de l'Ilissos, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, au témoignage d'inscriptions, et au moins jusqu'à l'époque byzantine, période à laquelle remonte une grande tannerie dégagée près de l'Olympéion. Vous voyez ici. C'est aussi le cas, bien entendu, à Rome, où les tanneries étaient situées dans la zone du Transtibérim, c'est-à-dire aujourd'hui le Trastevere, près du fleuve, où des séries de cuves sous la basilique Santa Cecilia assurent qu'il y avait des tanneries qui sont également mentionnées par des inscriptions trouvées dans le même secteur. À Pompéi, la présence de plusieurs tanneries est probablement significative d'un développement de l'utilisation des matières premières issues de l'élevage, stimulée par la demande fortement en augmentation à partir du règne d'Auguste. Pompéi, située à l'interface entre l'arrière-pays et la mer, pourrait donc être un centre régional de transformation des peaux, comme de la laine, un point que nous allons voir tout à l'heure. La demande régionale en cuir et en vêtements était en augmentation pour trois raisons principales. D'une part, à cause du développement urbain dans la baie de Naples, demandant toujours, évidemment, plus de chaussures et plus de vêtements. D'autre part, à cause des besoins grandissants de l'agriculture en matière de harnachement, de courroies, de câbles, mais aussi de conteneurs en peau de chèvre ou en peau de bœuf, notamment les culéis qui servaient au transport du vin en vrac sur des chariots-citernes. Vous voyez ici un exemple d'une peinture perdue d'une taverne située dans la région 6, insula 10. Et enfin, à cause des besoins de la flotte de guerre installée à Misène, où, bien entendu, cuirs et tissus étaient très largement employés par l'armée pour ses besoins, la marine aussi, mais il y avait aussi une demande particulière de la part des soldats. Donc, les conditions de la demande étaient réunies pour favoriser le développement de ce type d'artisanat. Nous allons ensuite, dans la deuxième partie de ce cours, examiner la filière textile, mais je vous propose une petite pause de 4 ou 5 minutes entre ces deux parties.